Ah, l'excitation est à son comble. Agnès Maltais, Gérard Deltel, Salamad, qui vous seront présentés à 16h sur les ondes de Boulevard. Les trois Amigos en compagnie de Denis Gravel, petite jazzette de 60 minutes qu'on peut se permettre ici à la station. Ça va être très cool à entendre. En même temps, ça va me rappeler plein de souvenirs. Et je vous l'ai dit à mon arrivée sur les ondes de Boulevard, c'était quoi, fin 2022 à peu près, novembre 2022, ouais. J'avais callé à shot Salamad à la mairie de Québec. Ouais. J'ai hâte de voir ce que vous allez en penser avec les réponses de Sam Hamad presque un an et demi plus tard. Faut dire que je l'avais rencontré aussi. Il m'avait dit « Yannick, il faut être discret quand on veut se présenter comme ça en politique. » 418-971-1021.
Toi, tu cries partout.
418-971-1021. Oui, mais ma job, c'est de donner l'information. Si vous voulez pas que je connaisse ces informations-là, parlez-en pas à vos amis, parlez-en pas à vos femmes, parlez-en pas à vos conjoints-conjointes. Sinon, ça va venir à mes oreilles. Fait qu'on le dit aux auditeurs. Nicolas Gagnon, comment ça va, monsieur?
Ça va super bien, vous autres?
Oui, ça va très bien. Quelle température vous avez dans le secteur de Montréal?
Ah, il pleut. C'est vraiment pas le fun. Oh. Pour vrai, c'est le pire mois d'avril que j'ai pu voir de ma vie jusqu'à maintenant. Là, on dirait qu'on est en octobre ou en novembre dans le stop depuis les 30 derniers jours.
Ah oui? Mais pourtant, nous autres, on a eu une belle journée hier.
OK, ben...
Pas toi.
C'est mieux pour vous autres. Bon. Nous, c'est, ça ressemble pas trop, ben, je veux dire, c'est nuageux ou c'est mouille-mouille ou c'est pas mal juste ça, fait que, ben, on fait avec, mais pas mal de travail à l'intérieur ces temps-ci, mettons.
Bon, on va le prendre pendant que ça passe, parce que d'habitude, la température est un peu plus agréable à Montréal qu'à Québec. Ici, c'est tout le temps venteux puis un peu pluvieux et froid. Là, dans les derniers jours, on a été gâtés. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Parle-moi un peu de la Fédération canadienne des contribuables. C'est quoi exactement? C'est quoi l'organisme?
Oui, bien écoute, la Fédération canadienne des contribuables, pour le répéter une troisième fois, écoute, c'est une organisation qui a été fondée en 1990. On est très présent dans toutes les provinces. On a un motto très simple. On veut moins de taxes, on veut moins de gaspillage et on veut un gouvernement plus responsable. C'est essentiellement le mandat qu'on a. On représente des centaines de milliers de sympathisants à travers tout le pays qui veulent exactement ça également et qui font pression sur les différents paliers gouvernementaux à travers nos initiatives, que ce soit des pétitions, des appels à l'action, ou les différentes infolettes qu'on fait circuler, des pledges ou même des interventions en cours quand c'est nécessaire pour justement essayer d'ébranler ne serait-ce que soit l'opinion publique pour essayer de vraiment faire bouger les choses au niveau des politiques ou d'ébranler directement les politiciens pour leur faire changer d'orientation sur certaines politiques. Donc, c'est pas mal notre travail. Au Québec, la Fédération est présente depuis 2016 de manière plus présente avec un directeur en permanence. Mais comme je vous dis, ça fait depuis 1990, notre premier combat en tant qu'organisation, ça a été contre la TPS. Donc, ça me donne une idée à quel point on remonte quand même un petit peu à loin, mais on est encore là pour longtemps. Et je vous annonce, en fait, la semaine prochaine, ça se peu que je ne sois pas en mesure d'être sur la chronique comme c'est mon habitude. La raison est assez simple, c'est que je m'en vais à Calgary rencontrer tous les autres directeurs de la Fédération. C'est notre rencontre annuelle. Et on tient notre événement qui s'appelle les Teddy Awards, parce qu'en plus de faire des interventions sur toutes que soit la radio, la télévision, les journaux, et d'être même dans des commissions parlementaires, on trouve aussi les moyens de s'amuser. Et la meilleure façon de s'amuser pour nous, c'est de tenir un événement de remise de prix, au pire, une forme de gaspillage de finances publiques qu'on a pu trouver dans les différents paliers. Donc, cette remise de prix-là, en fond, on remet... c'est comme des cochons en or, essentiellement, qu'on remet soit à la municipalité, soit à la province, soit au département ou au ministère fédéral, ça dépend. L'année dernière, on avait remis un prix au fonds de la mission de Affaires mondiales Canada, où est-ce qu'il avait dépensé des dizaines de milliers de dollars pour des niaiseries allant jusqu'à des festivals d'objets sexuels à Berlin en 2019.
Donc, c'est incroyable.
C'est des dépenses complètement farfelues. Fait que on fait cet événement-là le lundi, ça va être mardi prochain, si tout va bien. Donc, je vais vous faire un topo par la suite pour vous dire qui a gagné des prix. Le Québec a des bonnes nominations. Je peux pas vous en donner trop d'informations pour l'instant, mais ça fait partie des genres de choses qu'on fait. Donc, on vulgarise Puis on essaie d'avoir aussi du fun, puis on essaie d'intéresser des gens à ces enjeux-là par tous les moyens possibles.
Est-ce qu'un jour, vous seriez prêt à faire le top, mettons, des maires dépensiers du Québec ou le top des députés à la grandeur du Canada les plus dépensiers, les ministres les plus dépensiers? Ce serait intéressant de voir ça. Puis, tu sais, un maire qui se rend compte que c'est le maire le plus dépensier dans la province de Québec pourrait peut-être ne pas se sentir bien là, par la médiatisation de ce prix-là.
Il y en a qui pourraient être
fiers
malgré tout.
Ben oui, ça serait, écoute, ça serait un très bel exercice. J'avoue que c'est aussi une question de temps des fois parce qu'on était 125 députés avec 125 comptes de dépenses. Surtout que les députés au Québec, il y a une loi sur l'accès à l'information qui protège certaines de leurs factures. Fait qu'on n'est pas en mesure de recevoir nécessairement les reçus de leurs dépenses, mais simplement ce qui a été dépensé. Fait qu'on aurait des chiffres, mais on n'aurait pas commander des précisions sur ce que ces chiffres-là ont donné comme consommation. Donc, c'est un problème qui est vraiment de nature légale, puis on aimerait ça pouvoir éventuellement le combattre en cours. Ce sera ça peut-être pour un autre moment. Mais il n'en reste que dans l'optique actuelle, effectivement, on s'intéresse aussi à le nombre, par exemple, de taxes auxquelles les citoyens ont été imposés. C'est-à-dire, si un maire va augmenter les taxes plus que dans d'autres municipalités, on va effectivement le cibler. Mais des fois aussi, on essaye d'être un petit peu plus positif parce que, oui, on veut critiquer, dénoncer, mais il faut aussi citer les exemples qui sont notables et qui valent la peine d'être suivis. Je pense, entre autres, là, au maire de Saint-Augustin-de-Desmaures qui a donné un congé de taxes ou de l'augmentation du compte de taxes de ses citoyens pour une deuxième année d'affilée. Je sais qu'il y avait aussi une municipalité au Québec, je pense à Saint-Chrysostome ou autre, qui avait décidé de donner un allègement du compte de taxes pour une rare fois. C'est une des rares municipalités à l'avoir fait pendant que toutes les autres augmentaient les comptes de taxes. Donc, des fois, célébrer ces maires-là qui font une bonne job, ça peut aussi être une manière d'envoyer un signal aux autres maires qui ne font pas nécessairement la bonne job également.
Dans les dernières dépenses que le gouvernement a faites, moi, je regardais, bon, au niveau de la santé, on donne énormément d'argent. On parle de milliards et de milliards et de milliards. C'est plus d'un milliard de dollars par semaine qu'on envoie au système de santé. Puis on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Ça fuit de partout. Même affaire pour ce qui est du système d'éducation. Nos infrastructures routières qui ne sont plus vraiment adéquates. Tu as des policiers, je ne sais pas si tu as vu le meme que j'ai mis sur Twitter, mais tu as des policiers qui t'arrêtent des fois sur la route en disant « ben faudrait peut-être faire inspecter votre véhicule pour savoir s'il est sécuritaire. » Puis là, ben, tu regardes les routes, puis les routes, des fois, à certains endroits, c'est vraiment pas sécuritaire. Le 600 millions pour ce qui est de la francisation, on avait-tu vraiment besoin de dépenser cet argent-là? Est-ce que c'était une priorité, là, selon la Fédération canadienne des contribuables, ou on aurait peut-être pu en mettre moins ou pas pantoute?
Ben, c'est une très bonne question. Est-ce que la défense du français est une priorité? Oui. Est-ce que de dire que ça, on doit mettre des centaines de millions de dollars, puis que c'est comme ça qu'on va arriver à défendre le français, j'ai des très gros doutes. Surtout quand on sait qu'il y a une partie non négligeable de cette enveloppe-là, je pense qu'on parle de 340 millions, si je me trompe pas, ou à peu près, qui s'en vont directement pour des travailleurs étrangers qui sont temporaires. Je veux dire, si on parlait de gens qui viennent s'installer ici de manière permanente,
oui,
c'est un peu plus intéressant
ben oui.
de parler.
Il y a une logique, là, mais le Guatemaltec qui vient faire 4 mois par année ici, bon, il aime bien le Québec, il aime bien travailler, mais la dernière affaire qu'il veut, c'est de se faire franciser, pas payer. Là.
Ben c'est ça. C'est surtout que tout le processus de francisation pour un employé qui serait temporaire, ou pour un immigrant qui est temporaire, ben, ça voudrait dire qu'il devrait suivre des cours supplémentaires pour être en mesure de faire un travail alors qu'il est ici essentiellement juste pour un travail économique. Là. Il n'est pas là pour... Puis c'était rien conclu personnellement, mais c'est un peu le contrat de travail, c'est comme ça qui est fait. Mais je veux dire qu'on francise des gens qui ne vont pas rester au Québec. C'est ça mon principal problème.
Ben
parce
oui,
que si ces personnes-là décidaient de faire... Qu'on adaptait, par exemple, leur contrat de travail pour qu'une fois qu'ils aient fait un nombre d'années X, on les intègre ou qu'on fasse, par exemple, on émette peut-être pas la carte verte, là, j'ai plus le discours américain en tête, mais qu'on leur donne une citoyenneté temporaire ou une résidence permanente, pardon, ben à partir de ce moment-là, là, OK, ça vaudrait peut-être plus l'investissement, mais au-delà de tout ça, ça me semble être un petit peu un gaspillage parce que, comme tu l'as dit, le Mexicain, le Guatemaltec ou n'importe quelle personne qui vient ici temporairement, quand il va repartir, ben, le français, il va probablement arrêter de le pratiquer une fois qu'il est rendu chez eux. Fait que nous, on va avoir dépensé de l'argent pour rien encore une fois. Puis je tiens à rappeler aussi que ce 600 millions de dollars-là, à moins que je me trompe, ça passe par le ministère de la Loi française, qui est le ministère de M. Robert, si je ne me trompe pas. comme militants qui avaient quand même juste une enveloppe budgétaire de fonctionnement d'environ 60 millions. Puis là, on leur donne un budget soudainement beaucoup plus important pour quelque chose qui ne touche pas tant son ministère que ça. Parce que la réalité, c'est que le 600 millions, c'est beaucoup plus dans de la manière qui va être utilisée et administrée. C'est plus dans les cordes du ministère de l'immigration, de l'intégration et de la francisation. Donc, encore, j'ai comme l'impression qu'on essaie de justifier l'existence d'un ministère qu'on n'a pas tant de besoin, parce que oui, on doit protéger la loi française, oui, la loi 22, la loi 101 et tout ça, ou la loi 96, ce sont des lois qui sont nécessaires pour protéger la langue, mais de l'autre côté, est-ce qu'on a besoin d'un énième ministère avec un mandat comme ça, qui fait essentiellement, on s'entend, des publicités, comme on l'a vu avec le fameux Faucon Pèlerin, là, je pense que tout le monde s'en souvient un peu.
Oui.
Ben, c'est ça, c'est pas mal le mandat principal du ministère de la langue française, qui n'existait pas tant avant non plus. Ouais. Donc, de dire qu'il reçoit un mandat aussi important, avec une enveloppe budgétaire aussi importante pour des résultats qui sont pas tant pertinents pour le Québec, ben, oui, on a de la... Pour moi, ça me semble assez évident que c'est un gaspillage.
Ah, puis tu sais, j'ai l'impression qu'on agit comme on faisait dans le temps, là, les gens qui étaient hyper religieux. Là, ben, il y avait un nouvel arrivant qui arrivait, viens ici, t'as pas été baptisé, on va tout faire pour te baptiser. Puis après ça, la personne dit, c'est pas dans mes priorités. Là, le Guatémaltèque, le Mexicain va se pointer ici pour travailler 6 mois pour pouvoir gagner sa vie. Puis la première affaire qu'on va faire, c'est de dire, ouais, ben là, par semaine, tu vas avoir tant d'heures à faire là, pour te franciser. Lui, il va dire, moi, je parle espagnol, puis ça changera pas, puis je vais retourner chez nous dans quelques mois. Tu sais, ça va être quoi le. Comment on va faire pour analyser le succès de cette opération-là qui nous aura coûté 600 millions? C'est quoi? Il va falloir qu'il y ait une note de passage, ces gens-là? Est-ce que c'est des gens qui, à long terme, vont choisir le Canada ou peut-être le Québec pour venir s'établir? Comment on va être capable de mesurer ce 600 millions de dollars-là?
Ben, c'est une très bonne question. Le problème, c'est qu'on n'a vraiment aucun mécanisme pour mesurer ça, parce qu'on parle d'un impact qui est de nature culturelle. Donc, à moins qu'on remarque que soudainement la démographie québécoise ou des gens qui parlent français à la maison devient soudainement plus importante, ben, je veux dire, on n'aura pas vraiment d'indicatif clair, puis c'est pas mal le seul indice qu'on peut utiliser d'une quelconque manière. Mais qu'est-ce qui arrive si dans 10 ans, on réalise que finalement, ben là, je sais pas si ça va être encore la CAQ ou un autre gouvernement plus nationaliste, comme mettons le PQ, mais qu'est-ce que c'est? Disons, on remarque que finalement, ben non, il y a encore un recul du français à la maison ou du français dans les écoles, ou peu importe. Est-ce qu'on va faire une enveloppe de 6 milliards à la place? Donc, on va plus que double down, on va augmenter le budget 10 fois, puis on va dire, ben cette fois-ci, ça va marcher si on met 10 fois plus d'argent. Je pense que c'est une question de stratégie qui doit être révisée. Au-delà de la protection de la langue puis d'en faire la promotion comme on fait de manière ciblée, je pense que d'en faire la promotion en encourageant, en essayant de donner des allègements qu'on vise, par exemple, des compagnies en leur disant, écoutez, vous voulez franciser vos employés, ben on le fait déjà, qu'on offre des allègements, peut-être pas des subventions, mais carrément ni des crédits d'impôt, mais carrément qu'on leur donne un allègement sur leurs impôts si jamais ils sont en mesure de faire le travail que le gouvernement pourrait ne pas faire. Ça éviterait d'engager plus de fonctionnaires, parce que ce 600 millions de dollars-là, ça vient avec l'embauche de fonctionnaires supplémentaires pour l'administrer et pour donner les services de francisation. Donc, ça ne vient pas à coût nul, puis ça va sûrement venir avec des coûts supplémentaires à long terme.
Oui, puis on a un surplus d'enseignants aussi pour ces immigrants-là. Fait qu'il faut leur trouver de la job à ces enseignants-là. C'est un surplus qu'on a. On ne sait plus comment faire pour les faire travailler, ces enseignants-là. C'était du sarcasme.
Ouais, exact.
C'était du sarcasme, Nicolas.
Là, il n'y avait plus de mots.
On a un surplus de professeurs. J'ai manqué une nouvelle à ma tête.
Mais non, mais tu sais, il faut embaucher des professeurs de français, mais on n'en a pas actuellement pour nos propres élèves, ce qui fait en sorte que des fois, un professeur doit prendre plus d'élèves dans sa classe. Puis là, on se dit, tiens, il y a un 600 millions, on va embaucher des professeurs de français pour franciser les immigrants temporaires qui viennent travailler ici. Travailleurs temporaires, devrais-je dire, ça n'a comme pas de bon sens, mais gars, on vit dans ce monde-là, puis la francisation, on s'entend tous pour dire à quel point c'est important de préserver notre français, mais c'est la dilapidation des fonds publics qui est hallucinant. Demandez à n'importe quel propriétaire d'entreprise, homme ou femme, on s'en sac. « Hey, pouvez-vous me donner 600 millions? J'aimerais tenter quelque chose. » OK, mais ça va être quoi les résultats? Comment je vais faire pour mesurer le succès de l'investissement que tu me demandes? Bien, ça, ce ne sera pas possible, mais est-ce que je peux avoir votre 600 millions pareil?
c'est effectivement un problème. C'est drôle parce qu'on le voit dans un paquet de circonstances parce que puis j'ai quand l'impression que quand on a un gouvernement qui est un peu plus nationaliste, on a souvent ces réflexes-là où est-ce que on va faire des dépenses, mais on va pas nécessairement calculer le retour sur investissement. Puis on va toujours faire ça sur la prémisse que ben ça renforce l'identité, la langue, donc c'est pas grave si on gaspille. Au final, ce qu'on cherche, c'est pas nécessairement monétaire. Mais il n'en reste que si on n'est pas capable d'avoir des résultats intéressants, ben ça donne rien. On peut en parler comme pour les espaces bleus, par exemple. On a été flambé pas loin d'un demi-milliard là-dedans en se disant ben c'est pas grave si on dépasse les coûts parce qu'au final, on va créer des espaces au Québec qui font la promotion de la culture québécoise. Donc, ouais. Si on dépense, si on ne garde pas le suivi sur les dépassements de coûts des différents lieux qui devaient être faits, au début, il devait faire 16 lieux, finalement, il n'y en aura même pas 3 ou 4 de fait pour toute l'enveloppe qu'on aura gaspillée. Mais on s'est dit, ben c'est pas grave, parce que ça sert à renforcer la culture. Comme on le voit, par exemple, avec le parc, le stade olympique, c'est pas grave si on est rendu avec une facture de pas loin d'un milliard de dollars, parce que c'est pour un symbole important à Montréal, même s'il n'y a pas d'équipe sportive qui y joue, puis on n'a pas d'études économiques qui nous démontrent à ce jour qu'il va y avoir des retombées qui vont rembourser le stade ni son nouveau toit. Donc, tu sais, c'est d'avoir un gouvernement qui a ce réflexe-là de dire, ben c'est pas grave parce qu'on fait dans le symbole, on fait dans le culturel. OK, on comprend que ce sont des attraits importants, on ne peut pas faire assemblant non plus, mais de nous dire qu'on ne peut pas garder la feuille des dépenses, qu'on ne fait pas de suivi, puis qu'en plus, on refuse de donner des garde-fous supplémentaires comme un directeur parlementaire du budget à Québec ou d'avoir vraiment une étude, un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire comme ça aurait dû être présenté au dernier budget, on le fait pas. Donc, c'est des choses comme ça qui nous laissent croire que finalement, la CAQ, quand ils sont présentés comme le parti de l'économie, donc un parti qui est supposé justement être calculateur sur les dépenses, puis se dire, OK, pour chaque dollar qu'on prend des contribuables pour le dépenser, c'est quoi le retour? Bien, ce calcul-là, on l'a de moins en moins, ou on l'a pas du tout avec la CAQ. Et comme si c'était pas assez, ce matin, on a la nouvelle comme quoi est-ce que les fameux 320 millions de dollars qu'on a versés à Bécancourt pour l'usine de Ford, bien là, c'est en ce moment, c'est en arrêt. On a versé 320 millions pour 300 jobs dans l'optique d'avoir une filière électrique qui est performante. Puis finalement, on a une usine qui a arrêté le chantier de construction jusqu'à nouvel ordre. Donc, ça serait le fun d'avoir une CAQ qui reprend ses repères comme du monde et qui arrête de dilapider les fonds publics pour toutes les raisons du monde.
Exact. Nicolas, c'est toujours un plaisir de te jaser. Je te souhaite de passer un bel après-midi. Merci d'avoir été là.
Ben, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Salut, bye-bye. L'excellent Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables.
À retenir pas trop de sarcasme avec Nicolas.
Ben, c'est parce que là, il a dit, on a trop d'enseignants au Québec. Pensons-y à ça. Là.
Il y a un silence.
C'est 600 millions de dollars supplémentaires pour la francisation. Ouais. On va prendre des professeurs de français qui sont actifs présentement. Puis on va leur dire, faites du travail supplémentaire pour franciser des gens qui vont être ici temporairement puis qui vont retourner au Guatemala puis au Mexique par la suite. C'est un non-sens, mais regarde, on s'arrêtera pas juste à ça, sinon on passera pas un bel après-midi. Green Day, Boulevard of Broken Dreams sur les ondes de Boulevard. Vous avez des choses à nous dire? C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. À chaque fois que je l'entends, celle-là, elle me plaît tout le temps.
Ah, ça.
Parle de moi.
Ça vient tellement bien, cette toune-là.
Je parle la chanson, Pascal. On monte le son. I walk a lonely road.